Oui, bonjour.
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 C'est Solidaire d'abord, vous entendez qu'on est quatre autour de la table. Donc aujourd'hui, Alain, hein, fidèle au poste.
Ben on essaye. Hein.
Ouais. Florence.
Bonjour.
Oui. Denis.
Bonjour.
Bon, et moi, bonjour. Donc voilà, on va essayer de parler comme d'habitude un petit peu autrement de l'actualité que ce qui se fait sur les chaînes mainstream. Et donc là, on est dans une actualité chaude, bouillante même, hein, puisque il y a cette motion de censure qui pourrait être votée dans les minutes qui viennent. Hein. Voilà. Alors pourquoi cette motion de censure ? Ben parce que entre autres, cette société va mal. Et donc on va parler du 49.3 dans deux minutes. On va un peu éplucher tout ça, voir pourquoi cette société va mal, ou en tout cas à notre sens. Mais peut-être avant tout, tu pourrais, Denis, nous parler un petit peu de ce monsieur qui s'appelle Nicolas Framont et qui a écrit un bouquin sur les parasites.
Les parasites. Alors les parasites ne sont pas ce que l'on croit. Hein. Le véritable classe parasite, c'est celle qui est située au sommet du corps social. Nos élites, là. Cette classe bourgeoise qui a envahi la société tout enlève, rachetant les médias. Donc on les voit, les Bolloré et compagnie, ils sont là, finançant ces hommes politiques, exploitant ces travailleurs au plus bas prix possible. En retour, cette classe ne nous rapporte rien. Pire, elle nous coûte bien plus cher qu'elle nous rapporte. Elle nuit plus qu'elle brille. Elle nous mène au désastre écologique, car elle est incapable de vivre sans accumuler. Moralement, elle est au naufrage. Pourtant, chaque jour, elle est décrite sur nos radios, nos chaînes de télévision et dans nos journaux comme un groupe social indispensable à notre survie. Foutaise. Ce livre, donc de Nicolas Framont, ce livre nous démontre clairement non, les 500 familles les plus riches de France ne sont pas composées de dynamiques entrepreneurs qui ont pris des risques. Non, elles ne créent pas d'emploi. Non, elles ne font pas du bien. Oui, on pourrait vivre sans elles, sans leur règne. Nicolas Framont commet ici un ouvrage fouillé et radical pour contribuer à détruire cette croyance à la supériorité de nos maîtres et donner des arguments à la prochaine révolte d'ampleur qui appelle de ses voeux. Voilà, on y est peut-être.
Alors, t'avais pas beaucoup de lumière, alors t'arrivais pas à bien
ça,
lire.
Ça brille, hein. Le livre.
Bon, voilà. Alors, donc, ce Nicolas Framont nous explique que les parasites, c'est pas ce qu'on croit, parce que c'est vrai que les chaînes de télé, tout ça, en permanence, nous explique qu'en gros, il y a des gens qui touchent au chômage. Non, mais des gens qui touchent la retraite. Non, mais je sais pas si tu vois, quoi. Ça coûte un pognon de dingue, tout ça, tu vois. Et bon, bah oui, mais ces gens, justement, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, touche aussi beaucoup, beaucoup d'argent de la part de la République. Et la République, c'est qui donne l'argent à la République ?
La République, c'est nous.
C'est nous.
C'est nous.
Voilà.
C'est les impôts.
Donc c'est nous qui lui ordonnons du pognon, et c'est donc eux les parasites. Et même à un endroit, il écrit qu'est-ce que c'est un parasite ? Un parasite, c'est quelque chose qui se sert, qui se nourrit d'une espèce, tu vois. C'est quelque chose d'une espèce qui n'est pas la même, qui se nourrit des autres. Et tu l'as
et
là.
Qui vit sur le dos
des autres. Et qui vit aux dépens de cette...
Organisme qui se nourrit strictement aux dépens d'un organisme hôte, d'une espèce différente.
Voilà. Et donc, oui. Eux, ils nous prennent pour... C'est eux qui nous expliquent qu'on est une espèce différente, mais en fait, ils se nourrissent sur notre dos, et c'est eux les vrais parasites. Oui, Florence, excuse-moi.
Ce que je voulais rajouter, c'était le fait que ces parasites-là, en fait, justement, pour pouvoir continuer à exister en tant que parasites, et donc à nous sucer la moelle, hein, pour dire les choses très clairement, ils montrent, en fait, qu'ils dépendent de nous. Et donc, que le jour où on décidera de dire... stop à ce système-là, et en particulier à ces 500 fortunes hein, dont parle Nicolas Framont, eh bien alors les choses seront réglées par nous. Et ça renvoie effectivement à ce que tu disais, Denis, au fait que la République, c'est nous. Et ça permet de faire, je trouve, une très bonne transition justement à l'utilisation on ne peut plus injuste et illégitime justement du 49.3 du gouvernement. Puisque là, il s'élève contre tout un peuple, ou du moins contre 90%, si mes souvenirs sont bons, de salariés qui sont contre la réforme de retraite. Et aujourd'hui, on est à 75% de gens qui demandent que le gouvernement soit renversé.
Alors, ce 49-3, c'est dans la Constitution. Alors, c'est dans la Constitution de 58. C'est la Constitution qui a été écrite par De Gaulle, ça.
Alors oui, ce 49-3, on peut se poser la question, comment est-il arrivé à s'imposer dans l'histoire politique de la France? Alors c'est sous la 4e République, en fait, que les députés faisaient un peu n'importe quoi. D'accord. Ils changeaient d'avis fréquemment. C'était plus une stratégie politique de prise de pouvoir qu'un désir d'une réelle gestion des problèmes du moment. Et la France devenait ingouvernable, un petit peu comme aujourd'hui.
Un peu
compliqué.
Parce que là, on est dans un moment insurrectionnel. Tout à fait la même chose.
On est dans un moment insurrectionnel, oui, où les choses deviennent très compliquées. Et en pareille circonstance, donc là, pour la 4e République, le pouvoir glisse des ministres vers les hauts fonctionnaires. Et c'est un peu ennuyeux, parce que même si les hauts fonctionnaires ont des bonnes connaissances politiques, économiques, sociales, mais ils ne sont pas quand même des élus.
Alors, les hauts fonctionnaires, c'est ceux qu'on peut appeler les technos, là, d'ailleurs.
Oui,
quand on parle de technocrates.
Tous ces gens, disons, qui sont...
Des parasites
des parasites, voilà. Tous ces gens, disons, qui maîtrisent très bien, qu'on appelle parfois experts, et qui sont salariés, bien sûr, de l'État et payés par nos impôts, comme on le disait tout à l'heure. Alors, ceci afin de permettre à un gouvernement de résister à un parlement stratège dissolu, infidèle et oiseux. Ouais. Et le 49-3 a pris corps, donc, après, sous la 5e République.
Ouais. Voilà. Et donc, pour permettre qu'on empêche, justement, ces mouvements qu'il pouvait y avoir pour récupérer un peu une petite part de pouvoir.
Ces mouvements, disons, qui, au fond, étaient là pour des fins personnelles, de pouvoir, de prise de pouvoir, et qui n'étaient pas du tout dans un souci de gestion de la France et des choses difficiles à vivre par rapport au peuple, ou bien des acquis qu'on avait.
Sauf que là, maintenant, elle est utilisée par quelqu'un qui accapare le pouvoir pour lui tout seul, en fait.
Alors oui, c'est un homme, disons, seul, qui gouverne seul, ça c'est certain, et qui se trouve quand même quelques sous-fifres, comme Dussopt ou comme Borne, disons, pour mettre en application ses désirs. Ouais. Mais c'est un capricieux.
Oui, voilà. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Florence?
Moi je voulais ajouter que non seulement Macron gouverne seul, mais il gouverne même contre le peuple. Et c'est là où la situation devient dangereuse, en ce que, la notion même d'état de droit, de république est mise en question, à partir du moment où, et s'agissant donc de cette réforme des retraites, qu'on pourrait appeler d'ailleurs une contre-réforme des retraites, s'assoit très tranquillement sur l'esprit des droits fondamentaux de l'homme, puisque la dignité humaine et l'émancipation, qui est quand même chère et qui a fait surgir cette idée de constitution, puisque une constitution, c'est ce qui organise les pouvoirs, mais c'est aussi là-dedans qu'on trouve les textes fondamentaux qui régissent et qui définissent précisément aussi une république.
C'est comment on fait société, en fait.
C'est ça, exactement. Hein. Exactement, quoi. Et à un moment donné, on peut comprendre effectivement que les gens qui entendent à la fois des discours mensongers, puisqu'on nous explique deux heures avant l'expression et la prise de parole de la ministre jeudi que non, on n'aura pas recours à cet outil qui s'appelle le 49-3, puis finalement on l'utilise. Bon, ça c'est juste le dernier mensonge en date, mais il me semble qu'il y a quelque chose de dangereux, en ce que pour qu'une république fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une confiance des administrés, des citoyens. Or là, la confiance, ne serait-ce que de la confiance dans la parole, c'est terminé pour le gouvernement dans sa totalité. Ça fait trop longtemps qu'il nous raconte des histoires, et pas que d'ailleurs sur cette réforme des retraites, et surtout qu'ils sont complètement sourds aux attentes justement de millions de Français qui savent que si cette réforme est mise en place, eh bien on leur vole deux ans de leur vie, et donc deux ans de bonheur possible aussi.
Et c'est le centième 49-3, c'est le dixième de Borne, je crois.
Le onzième
de Borne. Ouais. Donc c'est peut-être celui de trop.
Peut-être.
Ouais. On va voir comment ça se passe cet après-midi. Mais en tout cas, le pouvoir vacille, ça c'est sûr. Alors qu'il y a une semaine, je sais pas, tenez-vous bien, je vous assure que c'est vrai. Il y a une semaine, moi je regardais sur une chaîne publique, je ne dirais pas laquelle parce que la pauvre, vraiment, c'est tellement terrible ce que je vais dire. Il y avait une interview de plusieurs personnes et le titre de l'émission, très très sérieux, hein, c'était « Mais pourquoi Berger s'obstine ?» Tu vois, c'est-à-dire pourquoi Berger continue à être vent debout cette réforme, etc. Mais il est fou, quoi. Quelque part, c'était vraiment Berger, il est fou. Et une semaine plus tard, on est presque à. Mais pourquoi Macron s'obstine, hein? Donc en une semaine, ça peut basculer comme ça. Ça montre à quel point les médias sont complètement délités. Enfin, je trouve qu'ils sont complètement à la rue. Ils peuvent être comme ça, ballottés d'un pouvoir à l'autre. Là, pour l'instant, on a ce petit moment insurrectionnel, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, d'un seul coup, le pouvoir n'appartient plus tout à fait à Macron, comme il était de fait complètement dans ses bras il y a pas si longtemps. Et d'un seul coup, les médias savent plus où ils en sont, quoi, en fait. Ils sont perdus.
De toute façon, le gouvernement en ressortira pas intact, hein, même si la motion de censure n'est pas votée. Hein, je pense qu'il en sortira pas intact. Hein, c'est pas possible, hein,
oui,
parce que
possible.
Là ils sont fragilisés quand même, ouais. Comme disait Florence, avec des mensonges successifs. On se rend compte que, disons que cette réforme, qui est une régression sociale plus qu'une réforme, hein, elle n'est pas là du tout pour servir les gens, mais au contraire pour servir le pouvoir et le capitalisme.
Hein. Mais ils sont pas sortis d'affaires, hein.
Ils sont pas sortis d'affaires.
Faut pas oublier que le Conseil constitutionnel a été saisi et que pour faire un RIP, référendum d'initiative partagée, ça a été lancé aussi. Donc le RIP, c'était déjà fait pour ADP.
Oui, mais alors justement, ça a été une vraie catastrophe.
Oui.
C'est-à-dire, que je m'explique un tout petit peu, excusez-moi. Donc, on a vu, on voyait les compteurs des votes pour le RIP. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À un moment, c'était en septembre. Alors, on avait 700 000 votes. Et puis, en octobre, on avait 750 000 votes. En un mois, on avait pris que 50 000, alors qu'en deux mois, on avait pris 700 000. Et puis, en novembre, on était retourné à 700 000. Donc, ils effaçaient des votes au fur et à mesure. Enfin, ça a été pitoyable, le total.
Ouais, monsieur le ministère de l'Intérieur, enfin, le ministère, ouais, de l'Intérieur qui gérait les votes. Donc, voilà. Ouais. Voilà, ils ont changé la règle en cours de route. Ouais. Voilà, il fallait remplir des papiers. C'est jamais rempli comme il faut, soi-disant. Ça a été la galère. Hein.
Ouais.
C'est la galère. Et ça risque de se reproduire. Maintenant, ADP, c'était les aéroports de Paris, c'était une chose. Maintenant, là, c'est pas du tout pareil. Les politiques risquent de s'en mêler beaucoup,
oui,
plus que pour ADP.
Oui, parce que il y avait aucune présence des grosses pointures politiques pour aller dans le sens de ADP, en fait.
Oui. Il y avait beaucoup d'intérêts financiers pour ADP. Hein. Il y avait beaucoup de kilomètres carrés, on va dire, constructifs à Paris.
Plus d'un million 200 000 signatures qui ont été validées.
Et là, il s'agit vraiment de contrecarrer une loi qui touche le plus grand nombre et qui risque de meurtrir davantage dans les chairs, et donc du coup qui concerne vraiment tout le monde. Alors j'ose espérer, si on devait en arriver là, que ça pourra fonctionner. Quoi.
Et qui touche les plus fatigués, je dirais, c'est-à-dire ceux qui commencent le plus tôt, hein, et où les corps sont usés. Et qui ne peuvent pas faire deux ans de plus, c'est pas possible. Quoi.
Oui, mais tu comprends ce que nous explique Nicolas Framont aussi, dont on a parlé tout à l'heure, là, dans son bouquin. Il nous explique que ces parasites, ça va très très loin, parce que l'ennemi est aussi intérieur. Mais ça, on le sait tous, parce qu'on sait que BFM TV, par exemple, que l'on écoute très facilement, etc., ben, ils ne sont pas en train de nous expliquer la vie pour nous, les uns et les autres. Mais on a en même temps, puisque c'est le mot qu'emploie notre maître, hein, quelque part. On a monsieur Eindhoven, par exemple, philosophe, qui vient nous expliquer la vie et vient nous expliquer que le CICE, c'est très bien pour nous. Pareil qu'un Nicolas Bouzou, hein, économiste, etc. Et tous ces gens-là sont au service de ce pouvoir.
On peut citer aussi Bernard Lévy.
Oui, bien sûr, oui. Et il y en a plein. Oh, oui. Donc des soi-disant experts, comme tu disais tout à l'heure, Alain, hein, et qui sont là pour nous expliquer l'ennemi invisible qu'ils sont en train de se battre après, hein, puisque souvenons-nous, il y a 10 ans, Hollande nous parlait de ça, mais en même temps, toujours, il nous parlait, mais pas vraiment officiellement, des Sandans. Et donc, quand on mélange tout ça, c'est explosif, quoi. Ils nous méprisent, en fait.
Hein, c'est ça. En fait, ce qu'il y a de commun là, entre tous ces experts, hein, qu'ils soient issus du domaine des sciences humaines ou du domaine économique, c'est que ce sont, et j'emprunte l'expression à Serge Halimi, ce sont les nouveaux chiens de garde du pouvoir. Hein. Ils sont uniquement là pour faire en sorte à ce que, justement, on nous répète de façon incessante, tels des slogans, que la politique dominante du moment, c'est celle qui est valable, et c'est la seule valable. Bref, qu'il n'y a pas d'alternative possible. Alors, les nouveaux chiens de garde, hein, ça vient donc d'un texte écrit par Serge Halimi, dont un admirable documentaire a été fait, d'ailleurs, à partir de ce texte. Et lui-même, Serge Halimi, en fait, a emprunté, en quelque sorte, ce titre, à partir d'un texte d'un autre auteur qui s'appelle Polonisant, qui lui avait écrit Les chiens de garde, et en expliquant que les chiens de garde du moment, c'était justement des philosophes, hein, qui devaient donc exprimer seulement le savoir académique, et que par conséquent tous les philosophes qui avaient une pensée alternative à cette pensée-là du moment étaient quand même sinon pas enseigné, ou en tout cas enseigné très très rapidement, de la même façon que sur nos plateaux de BFM et d'autres, on voit très rarement, par exemple, des Frédéric Lordon, pourtant économiste aussi, et philosophe, on ne les voit pas, voilà.
Comme disait Marcel Proust, je me méfie de ceux qui savent, je crois.
Ouais. Ah, oui. et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, Alain, il y a aussi le fait qu'ils sont sémantiquement d'accord. C'est-à-dire qu'il y a tout à la fois le vocabulaire qui est utilisé et les concepts, évidemment. Et d'une certaine façon, ils sont en train de vendre le pays à la découpe, l'industrie à la découpe, tout ça pour enrichir certains. Enfin bon, c'est scandaleux. Moi, je me demande si un jour on pourra juger ces gens-là, parce que je pense que le réveil va être très très dur. Hein. On va se retrouver avec une dette, pour le coup, vraiment abyssale, parce que en ce moment, ils sont en train de donner un pognon de dingue à des Total Energy, etc. Des gens qui, comme Pouyanné, augmente son salaire de 10%, parce que vous comprenez le coût de la vie quand même. Imaginons, quoi, le Pouyanné, il a besoin d'augmenter son salaire parce que le coût de la vie augmente, quoi.
Il faut quand même rappeler qu'il gagne 520 000 euros par mois.
Par mois.
Par mois. Ouais. 520 000 euros. C'est, on est dans la démesure.
Ouais. Mais le SMIC, il a monté, son jardinier coûte cher.
Il doit coûter très cher, oui. Il doit être vraiment reconnu, le jardinier.
Alors, je t'interpelle aussi, Florence, sur ce que ça veut dire. Dans son bouquin, Nicolas Framond, il parle aussi de quelque chose qu'on entend souvent sur BFM ou ailleurs. Comment on va s'en sortir? Donc, quelque part, c'est pour dire, il y a les gens qui cherchent à s'élever, qui essayent de se sortir de leur milieu ou s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire comme si on était tous de la merde et qu'on était tous dans la merde et qu'il fallait à tout prix qu'on arrive à se sortir de notre propre milieu pour arriver à s'élever, à aller ailleurs. Mais moi, j'ai des valeurs, merde, dans ma merde, et j'aime ma famille, j'aime mes amis, etc. Et j'ai envie de construire des choses avec eux. J'ai pas envie de me sortir de ce milieu-là, quoi.
Alors, justement, je trouve que tu as utilisé une belle expression. Tu as parlé, et c'est vraiment à distinguer, on est pris pour des merdes, c'est pas du tout la même chose que d'être dans la merde. C'est-à-dire que si s'élever, c'est sortir de la merde au sens des conditions matérielles, parce que précisément j'ai pas les moyens justement de me nourrir dignement, convenablement, alors c'est impératif justement de sortir de là, et c'est précisément par une république sociale et qui va promouvoir la justice sociale qu'on pourra s'en sortir. En revanche, souvent quand on est considéré comme une merde, c'est précisément parce qu'on n'a pas les valeurs qui sont attendues conformément à celle justement du pouvoir en place. Et c'est là où je te rejoins complètement, Michel. J'ai des valeurs et que je tiens et que je veux vivre ces valeurs-là, c'est précisément être juste, voire même être moral. Et effectivement, je vois pas pourquoi il faudrait sortir de là. C'est vivre, tout simplement, quoi. Tout simplement. Mais c'est vrai que pour pouvoir vivre et éventuellement justement être solidaire, promouvoir la solidarité, il faut effectivement avoir l'esprit disponible et donc l'estomac rempli et de fait pouvoir survivre et subvenir à ses besoins.
Rappelons que ceux qui sont sans sortie, comme Macron, hein, puisque apparemment pour beaucoup de gens c'est quelqu'un qui réussit, etc., c'est quand même quelqu'un qui est capable de vendre Areva à General Electric comme il l'a fait dans sa position de ministre, après de revenir, de racheter Areva, de racheter une partie d'Areva deux fois plus cher. Enfin, c'est magouille et compagnie en permanence, mais moi j'ai pas envie d'avoir ces valeurs là voilà, c'est scandaleux, quoi, je trouve.
Oui, moi, il me semble que ce qu'il y a d'important à bien distinguer, c'est qu'il y a à la fois les besoins. On a tous des besoins. C'est se nourrir, hein, c'est boire, boire de l'eau. Ça, sinon, je crois que trois jours après, on meurt si on ne boit plus. On doit s'abriter. Et ça c'est nos besoins qu'ont tous les vivants, quoi, hein, tous les êtres. Et puis après, il y a le désir, les désirs. Et les désirs, moi, il me semble que c'est le capitalisme qui nous les a imposés. Hein. Parce que ce désir, par exemple, de consommation, d'avoir plein de choses dans la surabondance, voire faire un crédit pour partir en voyage, ou je sais pas, enfin, des tas de choses qu'on nous crée. Et là, après, c'est de la manipulation.
C'est de la manipulation. Ah bon, mais pourquoi t'as dit ce mot-là?
On parlait de merde, mais c'est le capitalisme qui est une merde. Parce qu'il nous fout dans la merde.
Alors, on en arrive tout naturellement à ton quiz, Denis. Ouais. Hein.
Alors, il y a 15 jours, j'ai posé des questions. Je suis pratiqué à tout âge. Parfois, on m'utilise inconsciemment. Je peux avoir des conséquences très graves. Je suis très pratiqué par les politiques, mais pas que. Alors, voilà, les manipulations. C'était la manipulation, les manipulations. Alors, il analyse toutes sortes de manipulations. Alors, la manipulation par l'image. Donc, les médias, la publicité, les tendances, la mode. La manipulation par la désinformation et le mensonge. Alors, c'est les médias, c'est les sondages, c'est aussi les manifestants. Les manifestants, que quand la police et les syndicats comptent, c'est complètement différent. Les manipulations par le mensonge et la persuasion. Répéter de nombreuses fois la même chose pour arriver que les gens le croient et croient que c'est vrai. Puis surtout, alors, ce qu'on disait, c'est des prétendues élites qui viennent en plus les conforter. Manipuler les chiffres. Alors pareil, le nombre de manifestants, mais pas que. Il y a tous les sondages, il y a tous le PIB, tous les chiffres qu'on nous annonce, qu'on nous abreuve, et qui sont pas toujours et loin d'être justes. La manipulation par la flatterie ou la dévalorisation entre conjoints, déjà dans les couples, des fois ça arrive malheureusement. Et puis aussi par les supérieurs dans les entreprises, des fois on est défavorable, on nous rabaisse pour mieux nous manipuler. La manipulation par le chantage. Alors chantage, ben ça se fait à tous les niveaux, le chantage. On fait du chantage à nos enfants: si t'es gentil, tu auras une sucette, disons, à l'école, avec les notes, avec les bons points, voilà. Et de toute sa vie, on nous fait chanter. Et puis les promotions, évidemment, quand on travaille. Et puis la manipulation par l'enseignement. Alors l'enseignement, oui, ben souvent les programmes. On peut faire dévier, enfin inculquer des choses qui sont pas toujours justes et bien réelles.
Des valeurs.
Oui, des valeurs.
Qui n'en sont pas forcément.
Ouais.
Alors, est-ce que je peux te parler d'une manipulation qui m'a scandalisé récente?
Oui, vas-y.
Alors en fait, vous savez que le 8 mars, Macron a rendu un hommage national à l'Élysée, à Gisèle Halimi. Et donc, il rend cet hommage en pleine période de manifestation contre cette réforme des retraites. Réforme des retraites qui impacte surtout les femmes qui se retrouvent avec des carrières hachées et donc qui se retrouvent dans une mouise pas possible et qui ne s'en sortiront pas mieux avec cette réforme, hein, loin de là. Et donc, il y a le fils de Gisèle Halimi, Serge Halimi, qui dénonce la façon dont Macron est en train d'essayer de récupérer l'image de sa mère. faire. Parce qu'il, ouais. Il trouve ça scandaleux. Et en plus, il fait partie d'une association qui s'appelle Choisir la cause des femmes, qui a été créée par Gisèle Halimi elle-même avec, avec Simone de Beauvoir dans les années 70. Et cette association dénonce par la voix de sa présidente, mais pas que. Il y a plein de gens qui ont dénoncé cette manipulation politique d'État qu'a fait Macron en disant qu'ils ont insulté la mémoire de Gisèle Halimi. Ça va loin quand même. Hein. Voilà. C'est-à-dire on peut arriver jusque-là. Quoi.
C'est de l'instrumentalisation.
L'instrumentalisation, la manipulation.
La manipulation. Elle est encore pleine de manipulation. Je n'ai pas fini ma liste. Mais c'est l'heure de vous quitter.
T'as pas fini ?
Allez.
À plus. Ciao.
Au revoir.
Au revoir.